de philosophie critique par le père Philippe à Saint-Jodard, le 11 mars 1992.
On va continuer d'essayer d'entrer dans cette première division du jugement, affirmation et négation. Comment c'est la première division? Je vous l'avais dit la dernière fois, je crois ça important pour nous de saisir le premier moment où le jugement se divise pour comprendre ce qu'il est. Puisque la division est notre manière d'analyser. Nous divisons pour analyser. Il y a ce tout du jugement dont nous avons vu toute l'ampleur, toute l'extension. Qu'est-ce qui divise en premier lieu le jugement? Ce qui divise en premier lieu le jugement, c'est affirmation et négation. Pourquoi? Parce que le jugement, dans ce qu'il a de plus radical, c'est l'adhésion. Parfaite de l'intelligence qui découvre, qui dévoile ce qui est et qui adhère à ce qui est. Tous les autres jugements dépendent de celui-là. Voyez, c'est important pour nous de bien saisir ça au point de vue critique. Puisque ça nous permet de bien comprendre que la philosophie première se fonde sur ce jugement d'existence. Et c'est bien la philosophie première, ultime et première. Et que ce jugement d'existence est présent à toute la philosophie. Alors, ce jugement est premier parce qu'il est le plus simple. On a vu la simplicité de l'appréhension. Comme moment premier de la vie d'intelligence. Le jugement, c'est le premier moment de la vie d'intelligence au point de vue perfection. Et dans la diversité de ces jugements, quel est le jugement le plus simple? C'est celui où l'intelligence dévoile ce qui est. Le signe, c'est bien dans le langage, ceci est. Il y a le verbe et le nom. Le nom, dans ce qu'il a de plus radical, le ceci, le tout est dit. Moi, n'importe qui d'autre. Et le verbe être, qui est le verbe le plus simple. Tous les autres verbes dépendent du verbe être. Et au point de vue réflexion critique, c'est l'adhésion la plus élémentaire. Puisque c'est l'adhésion à la réalité en tant qu'elle est, sans rien, sans aucun autre élément. Si l'être en acte est premièrement l'essai, la découverte de l'essai est donc bien la découverte de l'être en acte dans ce qu'il a de plus simple. Ce n'est pas la réflexion sur le jugement qui est ce qu'il y a de plus simple. La réflexion sur le jugement, c'est-à-dire ce jugement est vrai. Et ceci est complexe comparativement au jugement. Ceci est non seulement par le langage, mais en réfléchissant sur ce que représente le jugement dans toute sa limpidité. C'est l'intelligence qui, en dévoilant ce qui est, adhère à ce qui est. Et en adhérant à ce qui est, reconnaît que son affirmation est vraie. Donc l'aspect de vérité vient après l'adhésion de ce qui est. En critique, c'est net. Et nous verrons en métaphysique que la seconde modalité de l'être, en acte, c'est la vérité. Ceci n'est pas nier cette affirmation, cette adhésion à la réalité en tant qu'elle existe, vient immédiatement après, entre l'affirmation et la négation de ce qui est, il n'y a rien, aucun intermédiaire. C'est donc bien la division la plus radicale, puisqu'elle touche le jugement le plus simple, et elle le nie radicalement. Il ne reste rien quand je dis ceci n'est pas. Je supprime tout ce qui est affirmé par l'affirmation ceci est. Je suis donc en présence de la division la plus radicale au niveau du jugement. Ce qui me permet du reste de comprendre que l'axiome de nos contradictions est bien l'axiome premier de toute la vie d'intelligence. C'est-à-dire la loi fondamentale de toute la vie d'intelligence. Vous voyez, tout ça est tout à fait premier dans la découverte de l'intelligence. Ceci est, ceci n'est pas. Dans le ceci n'est pas, l'intelligence ajoute ce qu'elle est capable de former, la négation. La négation, elle est formée par l'intelligence. Elle n'existe pas dans la réalité. Dans la réalité, il n'y a que des êtres existants. Il y a des êtres existants limités, qui est le fondement lointain de la négation, et qui n'est pas la négation. La négation n'existe que dans l'intelligence. Et c'est l'intelligence qui produit cette négation. C'est un être de raison. L'être de raison le plus radical, c'est l'universel au niveau de l'appréhension. C'est l'être de raison qui présuppose l'abstraction. Mais l'être de raison le plus parfait, si j'ose dire, c'est la négation, parce que c'est le fruit du jugement. C'est très curieux, il serait très intéressant de comparer au plan critique l'universel et la négation pour saisir ce que l'intelligence réalise en appréhendant et ce que l'intelligence réalise en niant. On retrouverait au niveau être de raison ce qu'on a dit précédemment au niveau de l'appréhension et du jugement. Quand on compare l'appréhension et le jugement, on a essayé de comprendre l'antériorité de l'appréhension sur le jugement et d'autre part l'antériorité du jugement sur l'appréhension. C'est pas contradictoire de dire ça, parce que c'est sur deux points de vue différents. Ici, nous pouvons manifester cela au niveau de l'être de raison. C'est-à-dire au niveau de ce que l'intelligence est capable de former par elle-même. L'universel et la négation. Alors, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. La négation ne pourrait pas exister si l'intelligence n'avait pas produit l'universel. Donc, la négation, être de raison, ne peut exister que si l'intelligence est capable de produire l'universel. L'universel est donc la condition sine qua non de la négation. C'est très important pour comprendre l'hégélianisme, ça. Puisque, de fait, je ne peux nier que parce qu'il y a abstraction, l'universel, le fruit, si l'intelligence était, comme dit Garrodi, qui fait la critique de l'intelligence dans une perspective marxiste, si l'intelligence était le reflet du réel, comme dans le réel n'existe pas le non-être, l'intelligence ne pourrait pas découvrir le non-être. Alors, à ce moment-là, elle le découvre dialectiquement. C'est très curieux. Et plus objectivement. Vous voyez, dialectiser la négation. Qu'est-ce que ça veut dire? Dialectiser la négation. Et non plus regarder la négation dans ce qu'elle a d'objectif. Ça très très important, c'est difficile à bien saisir. Ceci n'est pas, c'est regarder ce qu'il y a d'objectif dans l'affirmation et ce qu'il y a d'objectif dans la négation de l'être. Dialectiser la négation, c'est regarder affirmation et négation comme des contraires. C'est donc la suppression du principe de non-contradiction. Et je regarde affirmation et négation comme des contraires quand je ne regarde plus l'aspect objectif, mais l'aspect de l'exercice vital de l'intelligence. L'intelligence peut affirmer et nier. Je saisis à ce moment-là l'ouverture de l'intelligence. Elle peut affirmer et nier. Affirmation et négation sont deux actes contraires qui peuvent coexister dans l'intelligence, puisque c'est l'intelligence qui les fait l'un et l'autre. Je crois que c'est ça, dialectiser la négation, et par le fait même dépasser la contradiction. Puisque les contraires expriment de fait, affirmation et négation expriment de fait les deux opérations de la capacité de l'intelligence. L'intelligence peut affirmer, l'intelligence peut nier. Et donc manifeste le pouvoir dialectique de l'intelligence qui est au-dessus de la contradiction, qui dépasse la contradiction. Vous voyez la grandeur de la dialectique là, qui apparaît comme dépassant la contradiction. Et ceci est possible parce qu'on considère que la pensée est antérieure à l'être. n'embrasse pas la position hegelienne, puisque l'être n'apparaît que dans la pensée, ce qui prouve que la pensée est supérieure à l'être. Je crois ceci très important à saisir. Et par le fait même, la première division de l'être n'est plus affirmation et négation. Puisqu'il y a un dépassement de cette division par le point de vue de l'intelligence dans sa capacité vitale. Elle peut affirmer, elle peut négier. Alors, que sera la première division de l'être? Que sera la première division de la vie d'intelligence? Si ce n'est plus affirmation et négation, qui sera dépassée. C'est qu'il n'y a plus de vraie division. La division est dépassée par le mouvement dialectique. C'est le mouvement dialectique qui assume cette division. Parce que la pensée est au-dessus de l'être. Et donc il n'y a plus d'objectivité au sens absolu. L'objectivité par rapport à ce qui est n'existe plus. L'intelligence dépasse l'affirmation et la négation dans sa capacité. Dans sa capacité, dans sa vitalité spirituelle d'intelligence. Si, au contraire, je maintiens que l'affirmation est déterminée par ce qui existe, et que la négation est le fruit de l'intelligence, je peux dire tout de suite que la négation s'appuie tout le temps sur l'affirmation. Et comme l'affirmation, ceci est, implique une appréhension, et que toute appréhension intellectuelle implique une abstraction, et donc un mode universel, je peux dire que la négation, fruit de l'intelligence, présuppose ce premier fruit de l'intelligence qui est l'apparition d'universel. Je vois donc que la division la plus fondamentale, si je suis dans une perspective de philosophie réaliste, c'est bien cette division de l'affirmation et de la négation, et du primat de l'affirmation sur la négation. Ce qui est très étonnant, c'est de voir qu'à partir de la dialectique, il y a un primat de la négation sur l'affirmation. Alors ceci, c'est aussi très important à comprendre. Parce que ça nous fait peut-être comprendre ce qui caractérise la pensée moderne. Je crois que ce qui caractérise la pensée moderne, la modernité, c'est le primat de la négation sur l'affirmation. Alors comment comprendre ce primat de la négation sur l'affirmation? Je crois qu'il ne peut se comprendre que dans cette perspective dialectique où affirmation et négation sont le fruit de la vitalité de l'intelligence. L'intelligence affirme, l'intelligence nie. Il y a donc deux actes contraires, mais ces deux actes positifs. Qu'est-ce qui les unit? C'est qui manifeste le plus la capacité de l'intelligence, c'est la négation. Puisque dans la négation, l'intelligence est souveraine. Elle affirme son primat. Dans l'affirmation, elle affirme qu'il y a quelque chose d'autre qu'elle. Ce qu'elle affirme, ceci est. Donc l'être est autre que la pensée. Il n'apparaît que dans la pensée, et s'il est le fruit de la pensée, donc il est autre que la pensée. Dans la négation, il n'y a que la pensée. Et donc la pensée apparaît dans toute sa pureté. C'est la subjectivité de la pensée qui apparaît comme l'absolu. Donc vous voyez que pour affirmer le primat de la négation sur l'affirmation, il faut une position dialectique. La position dialectique est donc fondamentale. Et le fruit de cette position dialectique, c'est le primat de la négation. Je ne peux pas affirmer le primat de la négation en dehors d'une perspective dialectique. enfant Descartes. Descartes n'est qu'un répétiteur. Ceci a existé bien avant Descartes, chez les théologiens. C'est du reste très important parce que ça fait comprendre comment la dialectique va naître plus facilement chez les théologiens que chez les philosophes. Au fond, la dialectique ne peut naître qu'en théologie. Vous allez me dire pourquoi. Pourquoi la dialectique ne peut naître qu'en théologie? En philosophie, c'est très curieux, mais c'est très incompréhensible. En théologie, à cause du primat de la foi,
chez le
conscience conduit à ce primat de la subjectivité. Et je crois que ceci a commencé avec Occam. Le primat de la subjectivité. Quand Occam dit ce qu'il y a de premier dans la vie de l'intelligence, c'est intelligere et amo Socratem. Descartes n'a fait que répéter cogito. Il a laissé tomber amo Socratem. Il a pris uniquement cogito. Vous voyez, amo Socratem, c'est la conséquence de la foi. C'est très vrai, la foi réveille l'amour. Et la foi suffit à réveiller l'amour. Et donc le fruit de la foi, c'est amo Socratem. Tandis que la foi toute nue, intelligere. Oui, je vis. Je vis. Peu importe ce que je vis, je vis. Mon intelligence est vite et vivante. Le primat chez Occam de la vie de l'intelligence, c'est d'affirmer qu'elle pense. Je pense. J'intellige. Je crois que c'est là où on découvre ce premier moment de la vie de l'intelligence et d'une intelligence qui vit pour elle-même, qui n'a pas d'autre finalité que de vivre pour elle-même. Et donc, elle n'a pas à chercher d'autre finalité que sa vie. Et c'est le problème de la dialectique. Vous voyez, on touche là un noyau extrêmement important qui est de découvrir que la division première de la vie, de l'intelligence, une vie parfaite, le jugement, c'est affirmation et négation. Mais vous voyez bien, le premier moment parfait de la vie de l'intelligence, c'est dire « ceci est ». C'est ne pas dire « je pense ». Pour que l'intelligence puisse te dire « je pense », il fallait d'abord qu'elle dise « ceci est ». Parce que je ne pense jamais rien. C'est impossible. Donc, avant de dire intelligere, il fallait dire ceci est. Donc, au fond, où on oublie le jugement d'existence, et Occam en est très conscient. Pour Occam, le jugement d'existence, ce n'est pas le jugement dans toute sa pureté. C'est un jugement auquel s'ajoute de l'extérieur la sensation du toucher. C'est l'intelligence qui s'associe aux sensations. Pour dire ceci est, ce n'est pas l'intelligence qui dit ceci est, c'est l'intelligence plus le toucher. Et donc, c'est plus l'intelligence dans toute sa pureté, c'est donc pas le premier moment d'intelligence. Le premier moment d'intelligence, c'est intelligere, je pense. Mais comment l'intelligence peut-elle dire je pense sans objet ? Elle ne peut le dire que parce que il y a la foi. Et je crois que c'est le cas d'Occam. Et à partir de là, l'intelligence s'est donc érigée première dans son exercice intelligere. au-delà de l'objet. Ce qui est capital, c'est de comprendre que je suis intelligent. Et même pas je suis intelligent, parce que quand je dis je suis intelligent, je dis encore je suis. L'intelligence. Voyez qu'il y a une sorte de laïcisation de la pensée de la pensée. Aristote dit la pensée de la pensée pour Dieu, en affirmant Dieu existe, et donc Dieu ne peut que se penser. L'homme ne peut pas dire ça, parce qu'il s'éveille à la vie intellectuelle en regardant ce qui est autour de lui, ce qu'on voit chez le gosse. Alors voyez, il y a dans la perspective d'Occam l'oubli du point de départ, ce lien avec le réel, le jugement d'existence, l'oubli du jugement d'existence. Je le jette de côté et je ne vois que l'intelligere, ce que Descartes a repris et ce que Luther a repris, mais alors en affirmant que c'est la foi. Et Luther est plus croyant que Descartes, sous ce point de vue-là. Et j'allais presque dire qu'Occam. Parce qu'il montre que c'est la foi qui est au point de départ de tout. S'il n'y a pas la foi, mon intelligence reste morte. Parce qu'une intelligence qui affirme intelligere, qui affirme le cogito, elle est morte. Penser sans penser quelque chose, ça ne sert à rien. C'est vain. Il n'y a plus de finalité. Or, ce qui est vain disparaît. Parce que la nature n'aime pas ce qui est vain. On l'oublie. C'est très très curieux, vous voyez, comme ça a été préparé par Occam, Descartes, Luther et Hegel, qui vient au terme pour expliciter parfaitement cette vitalité d'intelligence à partir de la foi. Donc, retenez que la distinction entre affirmation, ceci est, ceci n'est pas, c'est capital au plan critique. Mais je dis bien ceci est, ceci n'est pas, que c'est vraiment ce qui caractérise la vie de l'intelligence. Une intelligence toute tournée vers l'être, dépendant de ce qui est. Et dans cette division, l'affirmation est première. C'est l'alliance fondamentale de l'intelligence et de la réalité. Ceci est. Je dis bien l'alliance fondamentale, parce que dans ce jugement d'existence affirmatif, l'intelligence adhère au réel. Et elle remercie l'être d'exister. Et elle fait alliance avec lui. Et elle reconnaît qu'elle ne peut progresser qu'avec l'être. Et que l'être est devant elle. Ceci est. Et la négation, ceci n'est pas, manifeste avec éclat que l'intelligence est dépendante de l'être. Puisque la négation de l'être, ceci n'est pas, montre que l'intelligence reste seule et qu'elle ne peut plus avancer.